can't breathe.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
Depuis plus d'une semaine, les États-Unis sont en proie à un mouvement sans précédent contre le racisme de la police. Il a été maillé d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l'ordre suite à la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.
First, we are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now.
Aujourd'hui, RFI a choisi de diffuser sur son antenne le podcast des correspondants des radios francophones publiques à Washington.
This is not an ordinary election.
L'Amérique s'embrase, c'est le titre de ce 17e numéro de Washington DC. Il est présenté par Grégory Phillips de Radio France.
Tout a démarré avec la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, décédé le 25 mai dernier à Minneapolis. Le monde entier a vu la vidéo de ce policier blanc, Derek Chauvin, appuyé avec son genou sur le cou et la nuque de Floyd pendant près de 9 minutes. Les deux Raphaël, vous rentrez de Minneapolis. S'il y a une image que vous ramenez là-bas, c'est laquelle ?
Ben moi j'arrive de l'aéroport, la première chose que je fais c'est que je me dirige en direction de la garde nationale qui est en train d'entourer, de protéger le commissariat de police, le premier commissariat qui avait brûlé. Puis les premières images, ben c'est une ville barricadée, brûlée aussi, hein, et ouais. Cette odeur dans l'air, Raphaël.
On arrive, l'odeur de fumée est partout, il y a des structures de commerce mais qui sont complètement détruites. Et ce commissariat duquel tu parlais, Raphaël, au cours de la soirée de vendredi, bien, il y a des gens qui sont entrés à l'intérieur parce que personne n'était plus là pour surveiller et ils quittaient, par exemple, avec de l'équipement de police. Ça nous montrait l'état de la situation dans la ville à ce moment-là.
Tout ça avec des manifestations toute la journée, toute la nuit, toute la soirée.
Ouais, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est aussi ce mélange d'émotions et de rage hein, qu'on voit à Minneapolis avec des manifestations pacifiques la journée et les violences qui arrivent le soir. C'est un peu des manifestations à deux vitesses qui se déroulent en ce moment.
Exactement, mais avec une colère de fond qui était très palpable dans les propos des manifestants qu'on a rencontrés.
J'ai vu la vidéo avec les quatre policiers et ça m'a détruit, quoi. C'était... J'ai pas les mots.
Vous avez les larmes aux yeux.
Oui. Oui. C'est ma ville et je l'aime. C'est mes voisins qui souffrent. C'est le racisme. C'est... chômage, c'est le COVID. Les gens souffrent et aussi on a un président qui est tout à fait folle, à mon avis. On le voit, on n'a pas de chef ici. Et c'est le it's chaos, c'est le chaos.
Les gens n'ont plus rien à perdre parce que c'est une crise qui se passe depuis. Et cette fois-ci, on a vu une vidéo pendant 9 minutes qui a touché le cœur des gens. Ça a touché le cœur des gens. Et les gens se disent, oh, c'est gros. On est déjà mort, en fait. On est déjà mort. On se voit déjà mort.
Oui, il faut dire que Derek Chauvin, hein, le policier mis en cause, avait déjà eu 18 plaintes, je crois.
18, oui.
Donc il y a une sorte de passif avec la police de Minneapolis. D'ailleurs, je crois que le gouverneur a lancé une enquête.
Oui, une enquête sur une période de 10 ans pour évaluer s'il y avait du racisme systémique au sein de la police de Minneapolis. Mais d'ailleurs, Raphaël, je pense que toi aussi t'as constaté en parlant aux gens là-bas que c'était pas très étonnant tout ce qui se passait.
Exactement.
Non?
Alors, on connaît George Floyd désormais, mais il y a d'autres histoires. Il y a eu d'autres bavures policières qui ont émaillé la vie des habitants de Minneapolis. Je vous propose aussi d'aller dans un quartier qui est très particulier à Minneapolis. C'est dans le quartier Powderhorn. C'est au sud de la ville. C'est là où George Floyd a été tué et j'ai rencontré un révérend et un activiste, il s'appelle Vijay Smith, un Afro-Américain, et avec lui on se retrouve donc sur le mémorial de George Floyd. Vous l'avez vu sans doute les images, hein. C'est des fleurs, c'est rempli de fleurs sur le sol et il y a cette fresque sur un mur, le visage de George Floyd.
This is where it happened, right over there. Is where he died. And what's going on right now, you have all the peaceful folks and the families that want to come together and know that we need justice. And then you have those that believe that there is no justice unless you go by any means necessary. You have to have some violence. Some
people... Et Vijay Smith explique qu'il y a des familles qui viennent se recueillir ici, des gens qui croient en la justice, mais dans sa communauté de Minneapolis, il explique aussi que certains ne croient plus du tout à la justice. Les gens sont fatigués d'être pacifiques, ça ne marche pas. Alors ils passent à l'étape suivante, la violence. En réponse à la violence.
No peace! No justice! No peace!
Raphaël, c'est au même endroit, là, ce mémorial, ouais. Où on a vu le frère de Floyd venir parler à la population et à la presse.
Oui, exactement. Un moment très émouvant quand il est arrivé à cet endroit, hein, où son frère a vécu ses dernières minutes, finalement. Et puis, il avait un masque au visage. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de gens porter des masques similaires. Hein. Lui, c'était écrit « We can't breathe », »,« Nous ne pouvons pas respirer », en référence au dernier mot, pratiquement, de George Floyd, « Je ne peux pas respirer ». Et lui avait un message de paix à lancer aux manifestants.
What are y'all doing? Y'all doing nothing! Because that's not gonna bring my brother back at all.
Alors il demande aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que ça leur fait du bien, la violence, les émeutes, mais au fond, c'est pas ça qui va changer les choses. Il a encouragé les gens à plutôt participer au processus électoral s'ils veulent du changement.
Et puis à Minneapolis, j'ai rencontré moi une historienne spécialisée dans les révolutions américaines. Elle s'appelle Drake Burke. Et elle parle d'un nouveau chapitre dans l'histoire américaine.
It is gonna be a new chapter. Every single generation of Americans has argued over this word, we the people.
Et Drake Burke me renvoie à la Constitution américaine qui commence par we the people, nous le peuple. C'est un terme qui a évolué au fil des générations. À l'origine, il incluait les hommes blancs, chrétiens, ensuite les hommes noirs, ensuite les femmes blanches. Mais c'est un peu un concept qui s'élargit, qui évolue au fil de l'histoire américaine, c'est ce qu'elle explique. Et donc, pour le faire évoluer, l'Amérique, parfois, doit se soulever.
Et on a entendu qu'il y avait quand même pas mal de violence à l'égard des journalistes. Comment c'était de travailler sur place?
Bah, écoute, Raphaël et moi, on s'est croisés samedi soir, quelques minutes avant que des bus remplis de policiers anti-émeutes débarquent. Et comme on dit chez nous, s'abrasser.
Qu'est-ce que ça veut dire, s'abrasser?
Alors moi, je te traduis ça, c'est donc des explosions de gaz lacrymogène. Il y a eu des tirs aussi de balles en caoutchouc. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on était au même endroit, mais la police tirait sur les journalistes, mettait en joue des journalistes. On était vraiment pris pour cible également, ce qui était très surprenant.
Il y avait très peu de distinction et on a vu une différence le deuxième soir, le dimanche soir, mais samedi, il y avait très peu de distinction. D'ailleurs, il y a une de mes collègues du réseau anglais de Radio-Canada qui, elle, a reçu un projectile de caoutchouc qui a été envoyé par la police.
Oui, enfin, c'est quand même très mauvais signe quand on voit les journalistes qui sont pris pour cible par les forces de l'ordre dans les manifestations. Moi, ça me rappelle vraiment l'Égypte et puis aussi tous ces mouvements de foule. Hein, quand j'étais sur place ce week-end, j'ai vu, je suis arrivée, puis il y avait vraiment des mouvements de foule parce que les manifestants se faisaient disperser à coups de tirs de gaz lacrymogène. Et donc, on n'a vraiment plus l'impression d'être aux États-Unis.
Bah d'ailleurs, nous, à Radio-Canada, à Minneapolis, on travaillait avec une équipe de sécurité pour s'assurer que les choses se dérouleront demain.
Oui, et les violences contre les journalistes, c'était pas seulement à Minneapolis. Hein, à Washington, lundi, quand le square Lafayette a été évacué pour permettre au président Trump d'aller faire sa fameuse photo devant l'église, il y a un photographe qui a été sérieusement malmené par un policier.
Alors, si Minneapolis est l'épicentre de cette colère, on l'a dit tout à l'heure, les manifestations ont lieu dans tout le pays, New York, Los Angeles, Atlanta, Houston, la ville de naissance de George Floyd, même des villes moins importantes, je pense à Des Moines, Iowa. Et puis ici à Washington, on est aussi dans un haut lieu de la contestation, et en particulier en centre-ville, downtown, dans le quartier de la Maison-Blanche. Même question, Anne et Sonia, est-ce qu'il y a une image qui vous a marqué ces derniers jours?
Oui, moi j'ai trouvé absolument incroyable la scène qui s'est déroulée hier soir au Lincoln Memorial. L'heure du couvre-feu était passée, hein, mais il y avait encore des centaines de manifestants qui étaient là. Et juste devant eux, sur les marches de ce Lincoln Memorial, et il y avait tous ces hommes en armes, en treillis militaires, le visage masqué. C'était vraiment une image complètement sidérante.
Très impressionnant.
Dystopique, ouais. Et toi, Sonia?
Moi, je pense que c'est la première fois que j'ai vu des centaines de manifestants d'un coup s'agenouiller. C'est un geste qui symbolise la lutte contre les violences policières. Et c'était très impressionnant et très émouvant. On n'en avait pas encore entendu parler. Donc voilà, je suis tombée sur ça. C'était assez frappant.
Et puis, il y a une scène très forte qui s'est déroulée le soir de l'intervention télévisée de Donald Trump. C'est l'évacuation en quelques minutes du square Lafayette, hein, qui se trouve vraiment sous les fenêtres du président.
Et oui, et moi j'ai été à peu près une heure avant que la foule se fasse disperser, et devant cette église où Donald Trump a ensuite tenu une Bible, eh bien, j'ai rencontré une femme pasteur qui s'appelle Jennifer Gumber, et elle distribuait de l'eau et des vivres aux manifestants.
I believe that the sin of racism has been part of the United States fabric for decades, and this is enough.
Alors elle me dit, je pense que le péché du racisme fait partie de la fabrique de la société américaine depuis des décennies et s'en est assez. Elle me disait aussi que son père avait manifesté pour les droits civiques dans les années 60 à Washington et que s'il était en vie aujourd'hui, eh bien il pleurait. Enfin, on sent vraiment une grande lassitude de ces gens qui ont vu les violences policières être perpétuées aux États-Unis depuis des décennies.
Anne, à Washington, dans les manifestations qui sont de plus en plus nombreuses, hein, jour après jour, qui est là? Il y a toutes les communautés, les Noirs, les Blancs, les Latinos, les Asiatiques.
Oui, et ce qui est nouveau, en tout cas c'est ce qu'ont souligné les militants de Black Lives Matter, c'est la présence massive de Blancs dans ces manifestations. Parfois ils se mettent exprès au premier rang, hein, juste devant la police, parce qu'ils estiment qu'ils courent moins de risques que les Noirs. Et la petite escapade dont tu parlais, Sonia, de Trump devant l'église, a renforcé cette mobilisation, parce que beaucoup de gens ont été très choqués de voir une foule pacifique dispersée violemment. Et mardi, je suis allée devant la Maison Blanche, j'ai rencontré une Blanche, Hélène Wilson. Elle portait une petite pancarte, « Le silence des Blancs est complice ».
White people have been complicit with racism for too long. Racism is systemic and we are all responsible.
Alors elle dit, les Blancs ont été complices du racisme pendant trop longtemps, le racisme est systémique, donc nous en sommes tous responsables. Et elle dit, il faudrait qu'il y ait plus de Blancs dans ces manifestations et plus de Blancs solidaires de nos frères et sœurs afro-américains.
Et puis Sonia, évidemment, dans ces rassemblements, dans ces cortèges, dans ces défilés, beaucoup d'hommes noirs qui sont... évidemment, les premières victimes des violences policières, plus que d'autres catégories de la population.
Oui, j'ai notamment rencontré Josh Edrington, 45 ans, c'est un agent immobilier de Washington DC. Alors, il était très en colère, mais aussi, on le sentait encore choqué, incrédule.
It has just grown and grown into the system where a police officer who's supposed to be keeping peace feels that it's okay to murder a black man in the middle of the street.
Il m'a dit, nous avons un système dans lequel un agent de police qui est censé assurer le maintien de la paix pense que c'est ok de tuer un homme noir au milieu de la rue en plein jour. Il sait qu'il est filmé et il n'a aucun problème avec ça.
Et d'ailleurs, à propos du fait que cette scène était filmée, je recommande l'incroyable travail de reconstitution de la mort de Floyd réalisé par le New York Times. J'imagine que vous l'avez vu. Les 8 minutes et 46 secondes qui ont mené à la mort de cet homme. Énorme travail d'investigation. Le quotidien a récupéré notamment toutes les images possibles des caméras de vidéosurveillance.
Oui, avec ces images, on comprend aussi mieux le rôle des autres policiers qui étaient là et qui ont aussi activement joué un rôle dans cette scène incroyable.
Oui, il y en avait un deuxième qui était à genoux aussi sur le dos de George Floyd.
On vous mettra le lien vers cet article du New York Times sur le fil Twitter de Washington DC. Nous sommes toujours chez Ben Chili Bowl, ce restaurant historique de U Street, pas très loin de chez toi, Raphaël.
Quelques
d'ailleurs.
Minutes à peine.
Et ça sent bon, la saucisse grillée et les hot dogs. Mais il n'y a pas de clients autour de nous, parce que Ben Chili Bowl est encore fermé à cause de l'épidémie de coronavirus. Il n'y a que de la vente à emporter. D'ailleurs, à propos du Covid-19, on a quand même en ce moment l'impression d'une double injustice qui frappe la communauté afro-américaine, plus touchée par l'épidémie que les autres et plus touchée par les violences policières. Anne.
Oui, moi je suis allée voir Zenobia Shepherd. Sa fille, elle est afro-américaine, est morte à l'âge de 26 ans du coronavirus. Elle était caissière dans un supermarché d'un comté à majorité noire du Maryland. Ses patrons n'ont fourni du matériel de protection à leurs employés qu'après sa mort. Et voici ce que m'a dit Zenobia.
Right now, America is in a turmoil. We're fighting two wars, COVID-19 and racism 20. So it's no longer peace anymore. We're in a war.
Nous menons deux guerres, dit-elle, celle contre le Covid-19 et celle contre le racisme. Il n'y a plus de paix, nous sommes en guerre. Et elle explique qu'elle prie pour qu'on trouve un vaccin et pour qu'on traite mieux la communauté noire.
Oui, puis pour faire un lien très rapide entre la crise sanitaire et la crise sociale qu'on vit en ce moment, le Centre des maladies américains a dit que, attention, ces grands rassemblements de foule, ces manifestations risquaient de relancer la propagation du virus, même si les gens portent
des masques. Surtout, vous avez vu, quand on prend des gaz lacrymogènes, tout le monde tousse et ôte son masque. Oui. Donc,
on se confirme, c'est compliqué à garder son masque sur la bouche. Ouais.
En tout cas, avec l'affaire George Floyd, on a l'impression que le problème des inégalités explose au visage de l'Amérique. Et Raphaël, pour s'en rendre compte, il ne suffit de pas aller bien loin. En fait.
On peut traverser de l'autre côté de la rue, ici, en face de chez Ben's Chili Bowl, et prendre le bus 90. Le trajet de ce bus-là va d'un quartier où le revenu médian annuel des ménages est de 145 000 $ et il se termine dans le sud-est de la ville où c'est 36 000 $. On passe aussi du coin où il y a eu le moins de victimes de la COVID-19 au coin où il y en a eu le plus. Et moi, j'ai parlé à un passager de ce bus qui m'a dit ceci.
1-8-7, I mean, it's just been like that all my life. I work in Columbia Heights area. I live in Southeast. It's night and day.
Dans mon quartier, c'est comme ça depuis que je suis né. Entre le lieu où je travaille et l'endroit où je vis, c'est le jour et la nuit.
Mais le racisme, c'est quelque chose auquel tous les Afro-Américains sont confrontés, qu'ils soient pauvres ou riches. Moi, je suis allée dans le comté Prince George du Maryland. C'est le comté à majorité afro-américaine, presque le plus riche des États-Unis. Et là, j'ai rencontré Garnell Wilson, il est prof de mathématiques à l'université.
Donc c'est quelqu'un d'assez favorisé, on va dire.
Oui, il gagne bien sa vie, il a une belle voiture. Et écoutez ce qu'il m'a raconté.
It's been many of times where I have been pulled over, put face down in the dirt, so-called mistaken identity. I've gotten pulled over.
Donc il dit, j'ai été arrêté des millions de fois, jeté au sol, la face contre terre pour des contrôles. Et il lui est même arrivé d'être arrêté parce que la police cherchait un suspect dans une voiture bleue. Or, la sienne est rouge. Il dit aussi qu'il est inquiet pour ses enfants et qu'avec sa femme, il a passé des heures à expliquer à ses garçons, notamment, comment se comporter avec la police.
Si on ne corrige pas ça, I'm highly concerned for the future of my daughters as well as my sons.
En tout cas, ces manifestations contre les violences policières et pour l'égalité sont aussi un sujet extrêmement politique. On enregistre cet épisode le mercredi 3 juin à 14h30. On est à 5 mois pile de l'élection présidentielle. Ça passe vite.
Beaucoup d'épisodes à prévoir.
Élection qui, si tout va bien, verra s'affronter Donald Trump et Joe Biden. Je dis si tout va bien parce qu'on a l'impression que tout peut arriver dans ce pays en ce moment.
On n'est pas à l'abri de surprise.
Dans cette crise, Biden et Trump, les deux hommes ont deux postures très différentes. Qui commence ?
Moi, je peux commencer par exemple avec Trump. Trump qui se positionne comme l'homme fort au discours martial. Je suis le président de la loi et de l'ordre.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others.
Et aux États-Unis, évidemment, ça fait tout de suite référence aux années 60. Richard Nixon, qui avait basé sa campagne sur les divisions raciales, la fameuse Southern Strategy, en galvanisant l'électorat blanc dans les États du Sud. On a quand même l'impression que Trump est en train de réitérer un peu cette stratégie politique qui avait réussi à Nixon à l'époque.
Oui, mais attention, à l'époque, Richard Nixon n'était pas président. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Donald Trump qui est au pouvoir. Donc c'est lui qui est, en quelque sorte, qui peut être tenu responsable du chaos ambiant.
Nuance importante, ouais.
Et du côté de Joe Biden, Sonia ?
Eh bien, il y avait un contraste saisissant avec le discours de Trump, puisque Joe Biden s'est aussi exprimé dans un discours. Il avait un ton présidentiel, rassembleur.
I can't breathe. I can't breathe. George Floyd's last words, but they didn't die with him. They're still being heard, echoing all across this nation.
Il a notamment dit, je demande à tous les Américains, regardez où nous en sommes et réfléchissez, est-ce qu'on veut ressembler à ça? Et puis il ne s'est pas privé aussi de tacler le président, tu parlais des années 60, Raphaël. Il a un moment dit que quand Donald Trump a tweeté, quand les pillages commencent, les tirs commencent, eh bien ces mots étaient ceux d'un flic de Miami raciste dans les années 60.
Le fait que Barack Obama intervienne, c'est important, ça a du poids?
Oui, parce que la parole de Barack Obama, elle est toujours importante aux États-Unis. C'est un ancien président qui est très apprécié, notamment des Afro-Américains, de la base démocrate aussi. Et puis on verra si ça peut aider Joe Biden ou si ça peut lui faire de l'ombre. Parce qu'on dirait que chaque fois que son ancien patron parle, ça a plus de portée que ce que dit Joe Biden, qui en était d'ailleurs à sa première sortie de son état du Delaware depuis la mi-mars lors de ce discours.
Mais on a l'impression pour l'instant que c'est Barack Obama qui fait la campagne de Joe Biden et qu'il est aussi plus légitime sur ces questions.
En tout cas, si on regarde les derniers sondages, 55% des Américains désapprouvent la gestion par Trump de cette crise et des manifestations, et ils sont plus de 65% à soutenir le mouvement de protestation. Voilà, c'était l'épisode 17 de ce podcast, ce balado des radios publiques francophones ici à Washington, enregistré dans des conditions un peu particulières. On a eu très peu de temps pour le préparer, mais merci à vous quatre. Je pense que c'était important d'avoir votre regard à tous sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On salue très respectueusement Virginia Ali, la patronne du Ben Chili Bowl, qui en temps normal est toujours là autour des tables, à discuter avec les clients, à raconter quand Martin Luther King venait manger des hot dogs ici. Nous vivons des moments historiques aux États-Unis. On est heureux de pouvoir les partager avec vous. Vos réactions, vos commentaires sur notre fil Twitter Washington DC. Et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Grégory Phillips, France Info.
Réalisé par
Mathieu Balmer.
Vous avez entre 15.